qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. Be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pour quoi faire?
Ce soir-là, la salle était pleine, nous nous étions tous déplacés pour ce film-là, presque célèbre de Cameron Crowe. Et des années après, je me souviens encore de cet enthousiasme palpable, tous unis dans le noir, à ressentir, s'émouvoir, rire en même temps, à cette histoire projetée sur grand écran, inoubliable. Oui, le cinéma est un culte pratiqué collectivement, et ce culte-là reste interdit depuis un mois maintenant. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Le 15 décembre, et si les chiffres de la pandémie sont rassurants, les salles vont réouvrir. En attendant cette date et des jours meilleurs, nous nous pencherons ce matin sur le cinéma au cinéma. Bonjour Nicolas Boukreyev.
Bonjour.
Réalisateur de Va mourir à trois jours et une vie, Made in France, ou Le Convoyeur entre autres, mais aussi spectateur passionné, cinéphile avec vous. Nous reviendrons sur ces scènes de films tournées dans des salles de cinéma de toutes sortes, vous verrez, chez Fellini, Godard, Truffaut, Kubrick ou Scorsese, rien que ça. Enfin, les objets du culte, livres, DVD, fortement conseillés. En attendant, la salle, c'est parti.
Ça m'a passionné de la revoir dans le palais des festivals. Il devait y avoir 2000 personnes là-dedans. Et il y avait un silence de mort pendant la projection. On aurait entendu une aiguille tomber par terre. On voyait les gens tendus et concentrés. Et ce silence, c'était unique. Et sans effet aucun, en fait. Je ne sais même pas trop comment on s'y est pris, mais je suis très fier de cette séquence. Ça me surprend toujours de voir le peu d'acteurs, et même de réalisateurs, qui vont voir leurs films en salle quand ils sortent. Quand un film à moi sort en Amérique, le premier week-end, je dis toujours à tout le monde, parce qu'ils me disent toujours, allez, quitte le pays, va-t'en, fiche-camp. Et moi je dis non, j'ai besoin du week-end. Je veux le vendredi, le samedi, le dimanche, pour aller voir mon film. Je connais bien Los Angeles, je vais le voir dans plusieurs salles, j'y trouve des réactions différentes, et après ça, je prends l'avion, je peux me casser.
Quentin Tarantino, qui aime sentir, ressentir le public devant ses propres films, comme son héroïne d'ailleurs dans son dernier film, c'est une fois à Hollywood. C'est péché d'orgueil, ça, Nicolas Boukreyev ?
Non, chacun fait comme il le ressent. J'ai envie de dire que, quelque part, Quentin Tarantino ayant un public de fans, je pense que le premier week-end, il a tous ses fans qui viennent voir le film.
Ça le rassure.
Oui, une bonne ambiance. Non, mais je veux dire, il ne peut pas vivre quelque chose de négatif. Là, il est comme une rockstar, je pense. Je veux dire, c'est comme s'il jouait sa musique devant un stade. Donc, je pense qu'il n'y va pas pour s'inquiéter ou s'interroger sur le film. Il y va pour ressentir son public de fans, l'émotion de son public de fans devant l'objet dont il leur a fait cadeau. Je trouve ça très cohérent de sa part, en fait.
Mais vous, quand vous faites un film, vous aimez bien quand même être dans la salle et ressentir.
Non.
Vous avez écrit et filmé pour les spectateurs.
Oui, mais là, je vais répondre comme beaucoup de metteurs en scène. À partir du moment où le film est projeté, il ne m'appartient plus. Et je trouve que, à moins d'avoir effectivement un public de fans comme ça, donc c'est une relation très particulière. Je pense que Luc Besson aurait pu faire ça dans sa grande époque. C'est souffrir, en fait, parce que c'est voir le film, essayer d'écouter la salle, de pas toujours comprendre ce qu'elle ressent, de voir les défauts du film. Donc moi, je suis comme beaucoup de metteurs en scène, une fois que le film est terminé, il est pour le public, il est au public et je le revois plus jamais, en fait.
Vous avez grandi à Antibes, est-ce qu'il y avait une salle que vous aimiez là-bas?
Bien sûr. Disons que dans les années 60, les salles n'étaient pas des multiplexes, donc chaque salle avait un cachet, chaque salle avait une architecture, chaque salle avait un type de fauteuil, chaque salle était grande, les salles étaient immenses. Donc forcément, les souvenirs que j'ai des salles d'enfance, de mes salles d'enfance sont superbes.
Ça s'appelait comment le cinéma ?
Votre film favori?
Il était immense. C'est devenu d'ailleurs un dépôt de meubles, une fois qu'ils l'ont vendu, pour vous dire à quel point il était grand. Avec des immenses rangées de fauteuils.
Des balcons.
Une ouvreuse Cerbère qui exigeait d'avoir des pourboires, ce qui n'était pas toujours le cas dans nos poches et de jeunes garçons. Et voilà, et la découverte de films immenses, de Fantasia, de films de Bruce Lee, de tout ça. Donc c'était.
Et ensuite, Paris, là, vous avez un cérémonial quand vous allez au cinéma, il y a une place que vous aimez.
Bizarrement, c'est peut-être un problème d'optique, c'est peut-être une question simplement de vue, mais ouais. Je me situe, je dirais, au début du dernier tiers de la salle, à une relativement grande distance pour voir le cadre, parce que c'est quand même mon métier, donc de voir quels sont les cadres quand on est trop près. Quand j'avais 15 ans, je me mettais au deuxième rang. Et je voyais Apocalypse Now, et voilà, c'était un trip. Maintenant, c'est une distance un peu plus intellectuelle, on va dire, mais quand même émotionnelle. Donc, troisième tiers de la salle, au milieu gauche. Voilà.
Moi, ça me gêne d'avoir du public devant moi, non? Ça vous gêne pas d'avoir du public entre
l'écran et vous? Les salles sont souvent en descente, donc quand il n'y a pas de bon mangeur de pop-corn, ça va.
Un autre cinéaste cinéphile, c'est Truffaut, un cinéma de rempli de références à sa jeunesse, notamment quand il volait les photos d'exploitation avec son ami dans les 400 coups, Charles Denner, fétichiste des jambes de l'ouvreuse dans L'homme qui aimait les femmes, et puis aussi dans d'autres films, Laurent, dans Vivement Dimanche aussi.
Oui, bien sûr, il y a une scène de meurtre, même on assassine la caissière du cinéma.
Et on a choisi donc, vous avez choisi L'argent de poche, donc à Thiers, la vie des élèves d'une école pour garçons. Un de ces garçons retrouve un autre et deux filles pour aller au cinéma. Alors, c'est vrai que c'est très imagé, on va passer l'extrait. On va entendre au début un petit dialogue, et puis après, on va raconter ce qui se passe.
Elle, c'est votre sœur? Non, c'est pas ma sœur, elle habite en face de chez moi.
Vous êtes en quelle classe?
Qui, moi?
Oui.
Je vais quitter l'école, là, parce que je vais être esthéticienne.
Alors là, Nicolas, on va entendre les actualités. Pendant les actualités, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a deux garçons, deux filles.
Deux filles, absolument.
Une des filles est d'ailleurs la fille de Truffaut.
D'accord.
Oui.
Donc il y a un petit garçon, une petite fille, un petit garçon, une petite fille. Dans les deux copains, le héros, Patrick, est un jeune garçon un peu déluré, un peu timide. Et il a son copain qui est un peu plus dégourdi, qui le pousse à inviter deux filles au cinéma en disant « on pourra les embrasser ». Évidemment. Et ce qui se passe, c'est que le copain, qui est beaucoup plus dégourdi, assez vite arrivé à ses fins, et notre petit héros qui est un peu embarrassé, ne sait pas trop comment s'y prendre, au point de rater son affaire, et que son copain plus dégourdi finit par embrasser les deux filles. Voilà. Tout ça devant des actualités de l'époque, des actualités sur l'Algérie,
ouais.
Sur Giscard d'Estaing,
ouais.
et voilà quoi. Donc, que dire? Que dire? D'abord, ce film est un précipité de l'art de Truffaut, je trouve. C'est un portrait de l'enfance des années 70 absolument merveilleux. Donc, il se trouve que là, ça, quand on vivait cette époque-là, on s'y retrouve complètement.
Ouais.
Et surtout, j'ai envie de dire, si je choisis cet extrait, c'est parce que pour tous les gens qui s'inquiètent que les salles ferment, que ça fait des années qu'on entend ça, la télévision va tuer le cinéma, et puis après Canal Plus va tuer le cinéma, puis Netflix va tuer le cinéma. C'est impossible, parce que le cinéma restera toujours l'endroit où des jeunes adolescents pourront s'enfermer pour en faire leur premier baiser. C'est inévitable. Aux États-Unis, ils appellent ça les date movies, les films d'horreur. Parce que c'est l'endroit où les films d'horreur, un adolescent amène sa copine, à un moment elle a peur, elle lui attrape la main ou le genou, et s'ensuit ce qui doit s'ensuivre. Donc, je veux dire, c'est ça que je trouve merveilleux dans cet extrait, c'est que il nous parle à tous. On a tous été adolescents, soit le garçon dégourdi, soit le garçon timide, mais on a tous eu un moment comme ça dans notre adolescence, je pense, qu'on est beaucoup à l'avoir vécu, ce petit moment de trouble, je ne sais même pas si c'est érotique, mais en tout cas amoureux, avec une jeune fille, une jeune adolescente assise à côté de chez nous, et inversement.
Parce qu'on est passé son temps à ne pas regarder le film.
Ouais,
parce que c'est ça le truc, voilà. C'est qu'on passe son temps à ne pas regarder le
exactement,
film.
Exactement, à regarder le film tout en étant focalisé totalement par la personne assise sur le fauteuil à côté de nous. Et je dis adolescent, mais ça marche à tous les âges.
Et puis on est dans le noir, donc c'est anonyme en plus.
Totalement.
On n'est pas jugé par les autres.
Totalement. Et puis c'est un endroit où on peut s'isoler, où des amants peuvent s'isoler dans l'obscurité en évitant d'être vus. Voilà, donc je crois que pour cette raison, les salles de cinéma ne fermeront jamais, sauf crise sanitaire, mais elles réouvriront inévitablement.
Grand refuge de résistance ou l'occupation, les salles de cinéma.
Ah ben voilà, c'est dans les polars d'ailleurs.
Grand refuge de gangsters, il y a énormément de films
où des gens en fuite, comme dans Le rideau déchiré d'Hitchcock, où ils s'enfuient dans un théâtre, comme dans La Dame de Shanghai, enfin de Orson Welles. C'est aussi un des grands endroits où on peut se dissimuler. Donc Pour toutes ces raisons, je parle même pas des films projetés sur l'écran, ouais. Je parle juste de la vie dans la salle.
Parfois c'est intéressant parce que le film projeté à l'écran est parfois un hommage du metteur en scène à un autre. Vous avez remarqué,
oui,
ça dans certains films.
Oui, dans Le Locataire.
C'est pas anodin.
Dans Le Locataire de Polanski, c'est ouais. assez émouvant d'ailleurs. Il va au cinéma avec Isabelle Adjani ouais. et c'est un extrait d'Opération Dragon parce que Bruce Lee était avait Bruce Lee donnait des cours à Roman Polanski comme ah. à, oui, bien sûr comme à James Coburn, comme à Steve McQueen. Bruce Lee était le prof de kung-fu de toutes ces stars d'Hollywood, c'est raconté d'ailleurs dans le film de Tarantino, plus ou moins, ça a évoqué dans le film de Tarantino. Ouais. Et voilà, donc c'est vrai que c'était l'hommage de Polanski à Bruce Lee à ce moment-là.
Et dans Chez Truffaut, dans Antoine Doinel, va voir évidemment un film de Jacques Rivette, bien voilà. sûr, c'est normal.
Lui, dans sa grande quête nostalgique, revient aux origines du cinéma et de son cinéma, c'est Federico Fellini. Dans Intervista à Cinecittà, avec une équipe de télé japonaise, il croise Marcello Mastroianni, son acteur, est en train de tourner une pub. Il va l'emmener voir, après des années, sa partenaire de la Dolce Vita, Anita Ekberg. Et là, dans cette maison, Mastroianni Mandrake va faire apparaître un écran de cinéma. On écoute ses secrets, on va le commenter avec vous, Nicolas.
Oh, baguette de Mandrake.
Oh, baguette de Mandrake.
In ordine.
Sur mon ordre, tu vas dans l'instant.
Fais
revenir le beau temps fui du passé.
Music.
Donc là, Nicolas, en fait, il a fait apparaître cet écran qui est en fait un chiffon blanc, un grand drap, un drap blanc.
Dans le salon. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Fellini a pendant très longtemps voulu faire une adaptation de la bande dessinée Mandrake, le magicien, avec Mastroianni. Dans Intervista, Mastroianni, en fait, est habillé en Mandrake, mais pour une publicité. Pour une mauvaise publicité un peu kitsch. Il tombe sur Fellini, qui l'emmène avec lui. Il dit, viens, on va aller voir Anita. Et là, ils prennent les voitures et ils vont. Alors, Fellini dit que la séquence a été improvisée. Vu la qualité de la séquence, j'en doute. Ça sent pas le reportage. Toujours est-il qu'ils arrivent dans la villa d'Anita Ekberg, qui vit dans une espèce de villa fortifiée, protégée par des dogs immenses et très agressifs.
Ouais.
Et elle les accueille. Et dans cette soirée qui s'improvise, ces belles soirées que Fellini s'est créées, le mandrake de publicité a un pouvoir magique, c'est le pouvoir de faire apparaître un drap au milieu du salon. Et là, il se projette la Dolce Vita, mais la séquence magnifique.
D'abord, ils apparaissent en ombre chinoise à l'écran, comme pour revenir aux origines du cinéma.
Et absolument.
C'est très beau.
Absolument. Et là, ils projettent la fameuse séquence de la fontaine de Trévise, avec Anita Ekberg dans sa splendeur et Mastroianni. Et ils regardent cette séquence tous dans le salon. Et c'est une émotion très forte qui nous touche à ce moment-là. Parce que, je dirais, il y a un jeu de poupée gigogne qui se met en place. C'est-à-dire que ça rappelle que le cinéma, c'est l'endroit de l'immortalité. C'est-à-dire ces gens qui sont devenus ce qui sont, Mastroianni, un petit acteur de publicité, et Anita Ekberg recluse dans sa maison, devant eux, il y a le miracle du cinéma, c'est-à-dire ce qui va toujours rester. Et aujourd'hui, ce qui est très émouvant, c'est que Mastroianni, Fellini et Anita Ekberg sont morts, donc on voit trois fantômes regarder le fantôme de leur passé. C'est bouleversant. Et il y a un plan absolument extraordinaire dans ce film, que je n'arrive toujours pas à m'expliquer, c'est que pendant qu'ils regardent cette séquence, la séquence se termine, si je me souviens bien, sur un plan des fameux dogs très agressifs, qui sont assis devant la fenêtre du salon où se déroule cette projection improvisée, et ces trois dogs ne bougent pas. Et je ne sais pas si c'est un effet d'éclairage ou si une fabrication de Fellini il en serait capable. On dirait que ces dogs sont en carton. C'est comme trois silhouettes de carton. Et je ne sais, j'arrive toujours pas à voir s'il a fait fabriquer des faux dogs en carton ou s'il a éclairé ses chaînes de telle façon. Voilà, donc c'est absolument merveilleux. Et c'est vraiment, je dirais, vraiment l'essence même du cinéma. C'est un très grand Fellini, Intervista, hein, qui est son avant-dernier film. Et c'est vraiment un très très grand film où il parle de sa jeunesse, où lui, jeune homme, allait à Cinecittà, interview. Donc c'est un film sur le cinéma. Et la projection qu'il crée, justement, n'est pas dans une salle de cinéma, etc. C'est comme les projections des premiers âges. C'est-à-dire, c'est sur un drap, comme les gens qui continuent encore aujourd'hui, il y en a, à se balader de ville en ville pour créer un écran. Dans une salle polyvalente et de faire une projection de classique.
On reste à Cinecittà, Nicolas Boukreff, les grands studios italiens dans lesquels se tourne Le Mépris de Jean-Luc Godard et la fameuse séquence de visionnage des rushs dans une petite salle de projection, celle qu'on a tant vue d'ailleurs au cinéma, notamment dans les films américains. Je remets un peu l'intrigue en place, même si beaucoup la connaissent. Le producteur Jérémy Procoche et Jack Palance engagent le scénariste français Paul Javals et Piccoli pour retoucher l'adaptation de l'Odyssée que Fritz Lang tourne à Cinecittà. Extrait.
Je ne me suis pas présenté, Paul Javal. Monsieur Procoche, vous avez dit
que c'est bien.
C'est très chouette. J'aime beaucoup le cinémascope.
Ce n'est pas fait pour des hommes, c'est fait pour les serpents, pour les enterrements.
Là, il jette les bobines.
Ouais. Jack Palance, le producteur.
Oui.
Ouais. Furieux, sur les bobines.
You've cheated me, Fritz. That's not what is in that script.
It is! Oh, no!
Get the script, Francesca.
Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Bellini? Ils se disputent pour les scénarios?
Yes, it's in the script. But that's not what you have on that screen.
Naturally, because in the script it is written. And on the screen it's pictures.
En fait, c'est le metteur en scène, le producteur, le scénariste, qui sont dans une salle dans l'attente ou après la projection des Rush.
Oui, après.
Et qui donc les commentent. Évidemment, les gens ne sont pas tout à fait d'accord sur ce qu'ils viennent de voir. Quoi.
C'est Godard
et...
qui règle ses comptes un peu avec les producteurs aussi, cette scène-là.
Peut-être, parce que c'était Carlo Ponti, le producteur de.
Oui, il y en avait trois. Il y avait Morgard, il y avait Levin.
Voilà, et je crois qu'ils étaient très très présents sur le film. Ils ont été très exigeants. Et je pense que c'est peut-être la seule fois où Godard a dû vraiment, peut-être, je ne sais pas, hein, je ne vais pas parler pour lui, a dû dealer et s'arranger avec des producteurs. Mmh. Ils ont notamment demandé qu'il y ait des scènes de nu, ce qui l'a obligé à faire des retakes, ce qui, de la part de Godard, est très inattendu.
Il s'est même battu avec le représentant de Levin qui venait à Paris vérifier ça.
Voilà, donc, mais après, je dirais, le mépris, moi je suis très, là-dessus, je rejoins beaucoup de cinéphiles, je n'ai pas très original, mais c'est de très loin le Godard que je préfère. Mmh. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait ce problème de ce carcan de production. Je ne sais pas si parce qu'il y avait Fritz Lang, Jack Palance, Bardot, mais c'est celui, je trouve, où son ironie est la plus en arrière. Elle fait partie du récit, mais n'est pas en avant. Et donc, j'ai envie de dire, si Godard avait toujours eu ce sérieux absolu, il en aurait peut-être eu d'autres mépris. Et je trouve que c'est un grand cinéaste pop, un grand inventeur de formes, mais la grâce qu'il a touchée dans le mépris, pour moi, n'apparaît que par fragments dans les autres films. À part évidemment À bout de souffle, le premier, qui était forcément comme ça, une espèce de jet très libre. Et donc, la présence de langue, etc., je pense que l'amour qu'il a aussi pour le cinéma fait qu'il prend sa matière très au sérieux. Mmh. Et ça donne un film... Il y a des films dans lesquels on aurait envie de vivre. Je veux dire, le Robin des Bois de Michael Curtis, avec Errol Flynn, je voudrais vivre dans ce film. Chantons sous la pluie, je voudrais passer ma vie dans ce film. Voilà. Le mépris, la lumière du mépris, cette musique, cette ambiance, cette Italie des années 60. Quand même, c'est un film dans lequel on aura envie de vivre.
C'est Bardot nu qui lit un livre.
Si vous voulez, pour votre cas, absolument. Mais c'est ça que je trouve assez merveilleux. Et puis aussi les films sur le cinéma étaient jusque-là, à ma connaissance, enfin dans la cinéphilie telle que je l'ai pratiquée, étaient des films américains. Et ce film-là était le film européen. Ouais. Il y avait les films italiens, Fellini, etc. Mais des films français qui parlaient comme ça de cinéma, du tournage, de la production des Rush, de tout ce qui pouvait faire la fabrication d'un film. Godard a fait celui-là, Truffaut a fait La Nuit Américaine. Ouais. Mais pour des jeunes enfants cinéphiles, c'était merveilleux parce que c'était des films français, ça parlait en français. C'est... Ouais. Donc c'était d'un coup, ça nous entrouvrait la porte de ce que c'était la fabrication d'un film d'une façon très mythologique, mais très émouvante. Ouais.
Dans Mean Streets, déjà, Johnny Boy, Robert De Niro, elle est au cinéma avec son pote Charlie Harvey Keitel. Ensemble, ils regardaient un film d'horreur de Roger Corman, d'ailleurs, un hommage de Scorsese. 3 ans plus tard, en 76, ils retrouvaient De Niro dans Taxi Driver. Travis Bickle, vétéran du Vietnam, chauffeur de taxi, ses rencontres nocturnes, la violence dont il est témoin, bien sûr, qui lui font faire peu à peu perdre la tête. Il va sortir de son taxi un jour pour suivre un schéma traditionnel, en fait. Il va emmener une fille au cinéma, la belle Betsy, c'est Sybil Shepherd, organisatrice de la campagne d'un sénateur. Il va l'emmener voir un porno. Extrait.
You gotta be kidding.
What?
This is a dirty movie.
No, no, this is a movie that a lot of couples come to. All kinds of couples go here.
Sure about that?
Et que là, en fait, il lui dit, on va voir un film. Elle dit, mais c'est un porno.
Exactement, ce sont ces salles qui existaient, où il y avait des productions de films porno qui existaient dans les années 70. Alors là, c'est même pas un film porno, c'est un film de prévention. Parce que les États-Unis, ils ont commencé comme ça. C'est des films de prévention prophylactique. Ça commence dans les années 60. Des films pour expliquer, attention à la syphilis, pour ne pas attraper la syphilis. Et évidemment, des distributeurs se servaient de ces films pour faire du cinéma d'exploitation et de faire des programmes de ce type. Donc là, c'est l'arrivée du cinéma porno, des salles double programme, comme il y en a eu à Paris. La dernière a fermé tout récemment. récemment, a fermé l'année dernière, je crois. Il restait encore une salle de projection de porno à Paris. Et il y a ce personnage de Travis Bickle. Et c'est là, d'ailleurs, quand on voit le film la première fois, où on sent son total degré de rupture. Oui, c'est-à-dire qu'il est amoureux de Sybil Shepherd, qui est une fille de la ville haute, on va dire. Et le fait qu'il l'amène dans ce cinéma, quand on est, voilà, devant on est très gêné pour lui, très gêné pour elle. Et c'est le moment où on sent que là, ce personnage va rester seul très, très, très longtemps, quoi.
Alors pourquoi, c'est-à-dire, pourquoi il est là, c'est une chance pour lui de réinsertion, c'est quoi alors?
Non, mais en fait, Paul Schrader raconte que c'était un scénario très autobiographique.
Oui, c'est ce qu'il faisait.
C'est-à-dire que lui-même pratiquait beaucoup ces salles. Mmh. Mais c'est des salles de... Attention, les cinéphiles des années 70, un peu geeks, allaient voir dans ces salles des doubles programmes de films d'horreur. Il y avait que là qu'on pouvait les voir, dont certains classiques, évidemment. Des films porno, des films érotiques, tout ça se mélangeait allègrement. Il y avait beaucoup de salles à Paris comme ça sur les grands boulevards, où on pouvait voir à la fois un film soft italien, en même temps qu'un film d'horreur américain qui était distribué que dans ce circuit. Donc c'était une culture geek. Mmh. Et je pense que là, il y a quelque chose du portrait, quelque chose d'un portrait très autobiographique de Schrader. Je pense que Tarantino peut se reconnaître dans ce personnage. C'est-à-dire à quel point on peut s'isoler dans la grande ville, dans quelque chose de personnel. C'est aussi un film sur le Vietnam, évidemment.
Ouais, d'ailleurs, il nous prévient au début, parce qu'au début, il y a une scène où il va au cinéma voir un film porno, lui tout seul, dans une petite salle. Et d'ailleurs, on voit pas la tête des spectateurs, comme si Scorsese respectait ce public-là. Enfin, je veux dire, c'est...
Oui, sans doute. Oui, oui. Je pense, en tout cas, c'est très d'époque. C'est très d'époque. C'est aujourd'hui, le même serait sur Internet à longueur de journée, etc. Donc, il y a quelque chose d'inconscient chez ce personnage à amener cette femme en pensant qu'elle va rentrer dans son mode de vie. Et il y a, au-delà du portrait d'un amateur de porno, il y a le portrait du cinéphile hardcore, j'ai envie de dire geek, qui croit que c'est normal pour tout le monde de regarder, je suis de cela, hein, qui trouve normal pour tout le monde de regarder un film gore sans que la personne puisse être choquée, parce qu'il y voit de la culture. C'est pas le cas de Travis Bickle, évidemment. Après, ce qui est fascinant aussi, c'est de voir à quel point ce film reste actuel. C'est-à-dire qu'on imagine très bien pour qui aurait voté Travis Bickle aujourd'hui. Il y a les prémices d'une Amérique paumée, sous-cultivée, qui est décrite là, qui est aujourd'hui très actuelle et très, presque pas majoritaire, mais de justesse.
On repart en Italie avec ce film dingue qui s'appelle Les Monstres, et pas Les Nouveaux Monstres. Dino Risi, 1964, 19 sketchs féroces sur les petites bassesses de tous les jours, ouais, la monstruosité au quotidien. Vous avez choisi ce sketch incroyable, Nicolas, qui s'appelle On oublie vite, point d'exclamation. On écoute, c'est un couple de bourgeois qui va au cinéma. Et à l'écran, Nicolas, il faut raconter.
Alors, ils sont installés dans une salle de cinéma classique avec un public assez populaire et varié, comme savait être le public italien à l'époque. Et à l'écran, ils regardent un film de guerre très dramatique. Où on va manifestement assister, un peu comme dans Les Sentiers de la Gloire de Kubrick, à une scène très dure d'exécution et de fusillade. Ouais. Donc des soldats allemands à l'air très 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 durs et quasi sadiques font mettre en rang des résistants en haillons qui visiblement ont été probablement torturés auparavant. Et ils sont assez impitoyables, et donc le public regarde ça assez ému. Un des résistants s'enfuit, un des Allemands le tue sans aucun état d'âme. On est dans un type de cinéma comme Rome, ville ouverte de Rossellini, c'est-à-dire on raconte la guerre de la façon la plus terrible, la plus tragique qui soit. Les résistants sont mis en ligne. Là, ils sont fusillés.
Oui.
Voilà. Et là, devant ce petit mur comme ça, un petit mur de campagne.
Et on va écouter la réplique de l'homme à sa femme.
Et à ce moment-là, Tognazzi se penche vers sa femme et lui dit...
Le petit mur qui sera au fond du jardin, je le vois absolument comme ça. Tout simple, juste avec un petit toit de tuiles dessus.
Oui.
Voilà.
C'est monstrueux.
Tout est dit.
Ça
s'appelle
Les
Monstres. Non, mais c'est court, c'est direct. C'est toute la puissance du cinéma des comédies italiennes, écrites par des gens qui étaient quand même très engagés politiquement et qui avaient un vrai point de vue sur leur société, contrairement à malheureusement ce qu'on voit parfois dans la comédie française. Il y avait un point de vue. Et je dirais le titre, On oublie vite, pareil, est un titre, c'est quand même un film de 63, je crois.
64, oui.
64.
Ouais.
Et on oublie vite, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps régulièrement, c'est-à-dire on oublie vite. Mmh. Voilà, donc il regarde quelque chose, c'est-à-dire la guerre est terminée depuis quoi, 15 ans, c'est 18, 17 ans, à ce moment en Italie, et ces grands bourgeois ne s'intéressent qu'à la couleur du petit mur, voilà, on oublie vite.
Les cibles, c'est les intellectuels, l'église, la domination masculine, les politiciens, enfin tout est passé au crible.
Merveilleux.
Avec monsieur Ugo Tognazzi et Vittorio Gassman.
Qui sont
La salle de cinéma, Nicolas Bougrève, peut aussi être un terrain d'expérimentation. L'impact d'un film, d'image sur un grand écran avec un spectateur forcé de regarder les images, Orange Mécanique, Stanley Kubrick.
Il consiste en quoi, au juste, le traitement que vous allez me faire ?
C'est très simple, en réalité. On va juste vous faire voir quelques films.
Comme si on m'emmenait au ciné ?
Oui, c'est un peu ça.
Ça, c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps.
Et j'ai dû en m'y rire jusqu'à plus soif. L'endroit où on me traîna, mes frères, n'avait rien d'un ciné. J'étais bouclé dans une camisole de force, le gollywog serré dans un casque, avec des fils qui sortaient de partout. On me fixa des écarteurs de paupières, si bien qu'il m'était impossible de fermer les yeux. Tout ça me semblait idiot. Mais je les laissais faire à leur guise. Un jeune malchik peut supporter bien des choses pour être libre 15 jours plus tard. Oh, mes frères.
Le cinéma, salle de torture, Nicolas Boukreyev, avec l'expérience Ludovico. Ce film est dingue à tout point de vue.
Oui.
Et c'est un traitement, donc, pour lui faire revenir vers...
Voilà, c'est l'histoire d'un psychopathe à qui on fait un traitement, on va dire, en lui montrant des images violentes, en droguant un peu quand même, et en lui montrant des images violentes pour qu'il prenne conscience de la violence et en soit dégoûté.
Ouais.
Donc, d'abord, je trouve ce propos formidable, parce que l'idée que le cinéma soit une catharsis plutôt qu'un incitateur, je crois à ça. Je crois que le cinéma, la violence au cinéma permet de se décharger de la propre violence qu'on reçoit dans notre quotidien, beaucoup plus qu'un incite des gens à passer à la violence. Et puis, j'ai envie de dire, j'ai voulu prendre cet extrait parce que je voudrais signaler un truc qui me choque beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi, dans les écoles de France, il n'y a pas des cours. Je ne parle pas d'une heure comme la musique, je parle de 2 heures, 3 heures par semaine pour apprendre aux enfants le langage des images. Je connais même des lycées qui doivent se battre comme des chiens pour défendre leur option cinéma, parce qu'on décide que finalement c'est anecdotique. Ça fait 50 ans que les enfants apprennent autant par l'image. Alors c'était d'abord une chaîne, puis 2 chaînes, puis 3 chaînes, et puis 25 chaînes, et puis maintenant Internet. Et il n'y a aucun cours d'éducation qui fait qu'un documentaire idiot comme Hold Up peut faire que des gens peuvent se dire « mais c'est formidable ». Parce qu'ils n'arrivent pas à décoder, on leur a pas appris, c'est un langage. On apprend l'anglais, on apprend le français, on apprend encore le latin, c'est très bien. Mais on n'apprend pas, je ne comprends pas pourquoi un gouvernement ne s'empare pas de cette question, et comme dans Orange Mécanique, de façon un peu moins brutale, ne fait pas des projections pour expliquer voilà ce que c'est, voilà une image truquée, voilà un champ, voilà un contre-champ, etc. C'est quelque chose qui m'échappe totalement, puisque on dit attention, faut pas laisser les enfants devant trop devant les écrans, ils y restent des heures par jour. Comment se fait-il que l'école se soit à ce point coupée du réel des élèves pour ne pas prendre en compte cette notion? On est en train de s'inquiéter des images truquées qui pourraient changer les élections, et nulle part à l'école, sauf accessoirement, sauf incidemment, parce qu'un professeur aura décidé de prendre ça à cœur, on apprend aux enfants à décomposer les images ou à comprendre les images, le langage des images.
On va entendre la suite de Orange Mécanique, justement parce qu'il adore Beethoven. Et là, on va changer parce qu'on lui a passé des images avant sanglantes, etc. Et là, on va lui passer un défilé nazi.
En fait, on lui passe un défilé nazi toujours pour le dégoûter de la violence, mais sur le fond d'image de ce défilé nazi, il y a la musique de Beethoven. Et la musique de Beethoven était la seule chose qui sauvait ce personnage. Parce qu'il aimait Beethoven à part de sa vie d'ultra, de voyou, de hooligan ultra-violent. Et donc, d'un coup, en même temps qu'il prend... très violemment les images, il se met à avoir un rejet pour la musique de Beethoven. Et à ce moment-là, les scientifiques disent, eh bien, ça sera sa punition. Voilà, donc c'est là que Kubrick est fin. C'est qu'au lieu de dire, voilà, il suffirait de prendre les délinquants et de les mettre devant des images violentes et leur faire un bon traitement de choc pour les soigner, il dit quand même qu'il y a quelque chose de fasciste dans la façon dont on le traite.
On va au cinéma pour se faire peur, vous le disiez au début d'ailleurs, et puis c'est bien mieux dans le noir, faire peur à sa petite amie par exemple. Comme dans Thriller de John Landis. Alors, on dit que c'est le clip le plus célèbre de l'histoire, 420 millions de vues sur YouTube. Mais c'est surtout un film, parce que John Landis l'a tourné en 35 mm. Il l'a produit avec Michael Jackson. Le morceau n'avait pas besoin de ça. Michael Jackson, en fait, était fasciné par le loup-garou de Londres que John Landis avait réalisé.
Absolument. Et puis comme il avait fait Blues Brothers, je pense qu'il devait se dire qu'il était aussi à l'aise aussi avec la musique. En fait, j'ai choisi cet élément qui n'est pas un film, qui est un film dans la télévision, parce que c'est quelque chose qui a toujours été diffusé en télévision.
Trois semaines au cinéma à l'époque.
Ah oui, trois semaines au cinéma quand même. Donc il y avait cette idée de dire on fait du film. D'abord, ça voulait dire que c'était noble de faire du cinéma. Même pour Michael Jackson, l'idée que c'était un film. Et en fait, ça commence par un film d'horreur, et puis on découvre.
Et on va écouter.
Voilà. Donc ça commence par un film d'horreur où Michael Jackson se transforme en le garou et en fait on découvre qu'il est dans une salle avec une petite copine et quand il sort, bon tout le monde connaît le clip par cœur, on va pas le raconter, mais je dirais ce qui est très important, je crois que c'est un événement au-delà d'être le clip le plus regardé, le plus cher, etc. C'est aussi un basculement incroyable ce clip parce que c'est le moment où l'événement cinématographique pouvait se passer non pas par une diffusion à la télévision mais à la télévision. Ils ont réussi un truc très fort, ils ont fait, attends, ça c'est un film, d'ailleurs ça commence dans un cinéma, mais c'est à la télévision que ça se regarde. Et là il y a eu un basculement où le cinéma a perdu beaucoup, j'ai envie de dire, puisque on pouvait créer un événement à la télévision qui pouvait être aussi excitant que le film qui allait sortir dans un mois. Et c'est aussi le moment où il y a eu un basculement culturel, puisque le zombie, qui était une créature... je dirais qui était apprécié par les gens qui étaient de la culture underground, c'était La Nuit des Morts Vivants, c'était le film zombie, c'était les films italiens, c'était une culture très underground et très très solitaire, un peu comme on parlait de Travis Bickle de Taxi Driver tout à l'heure. Et avec Thriller, c'est devenu une créature de culture de masse, puisqu'on en voit encore des films de zombies, c'est devenu la créature la plus populaire, il y a des séries, des blockbusters, et il a perdu au passage de sa mélancolie, car c'est un personnage très mélancolique, le zombie, mais aussi le second degré par rapport au cinéma d'horreur est arrivé, et l'idée que ça pouvait être pop, et donc il y a quelque chose de culturellement, il y a une bascule là qui est très importante, ces moyens du cinéma mis au service d'un objet télévisuel qui allait, comment dire, vulgariser une culture qui était jusque-là relativement fermée, c'est une bascule. On est encore dans Thriller, j'ai envie de dire. Et accessoirement, le film dit aussi, comme beaucoup de clips de Michael Jackson, comme Bad, qu'il y a un monstre en lui. Je veux dire, pour la suite des événements, il y a beaucoup de...
Justement, là, Landis dit le clip est une allégorie de ce qui est arrivé à Michael Jackson, une transformation physique et psychique entre ange et démon.
Ben oui,
c'est fou.
Mais oui, mais c'est dans beaucoup de ses clips. Il a hurlé pendant tout un clip tourné par Scorsese, I'm bad, et personne ne le croyait. Ben si, il le disait.
Non, c'est étonnant. Avec les codes de la série B, bien sûr, amour adolescent, très prude, la pleine lune, le loup-garou. De toute façon, il avait qu'une idée, c'était de vouloir se transformer en monstre. Il a dit tout de suite à Landis, je veux me transformer en monstre.
Voilà, c'était un coming out.
Et enfin... Nico...
Non, mais je dis ça sans...
Non, c'est vrai. Alors, on va finir sur l'une des scènes les plus inoubliables du cinéma. Elle est extraite de Soleil Vert de Richard Fleischer en 1974. En 2022, tiens, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul le soleil vert, sorte de pilule, parvient à nourrir une population miséreuse. Accompagné de son fidèle ami Sol, un vieux professeur, et en même temps c'est la mémoire du temps passé, c'est Edward G. Robinson, le policier Charlton Heston va découvrir l'effroyable vérité. Alors, ça s'appelle Soleil Vert, mais moi j'aime beaucoup le titre du roman qui s'appelle Make Room, faites de la place, dans une époque de surpopulation. Donc, ce vieux Edward G. Robinson va choisir, son personnage va choisir la mort. On va l'installer sur ce lit, dans cette pièce, où lui seront diffusées les images.
Sol, est-ce que tu m'entends?
C'est énorme.
Oui.
C'est gentil d'être venu, merci.
Oh, Seigneur.
J'ai vécu trop longtemps.
Non.
Je t'aime, Thor.
Je t'aime, Sol.
Voilà donc, Charlton Heston, Edward G. Robinson jouent deux flics dans un monde en totale déliquescence. Dans des villes où les gens dorment dans les rues, enfin, voilà quoi, c'est l'enfer.
Maintenant, quoi.
Presque. C'est l'enfer. Et ils enquêtent sur un meurtre qui a eu lieu dans la ville haute. Et ce que va découvrir Edward J. Robinson de la raison de ce meurtre est tellement horrible comme vérité qu'il décide effectivement de rejoindre un lieu où on invite les personnes âgées à se rendre quand elles sont fatiguées et où on les accueille merveilleusement bien. Mmh. Effectivement, on les met dans une grande pièce, tout en blanc, on leur donne une coupe à boire de vin probablement empoisonné. Et là, ils se couchent et on leur projette sur un écran à 360 des images de nature comme il n'en existe plus sur Terre.
Ouais.
Et donc là, sur la cinquième de Beethoven, il y a ces images extraordinaires. Et Charlton Heston arrive trop tard pour empêcher son ami de se suicider, en quelque sorte, devant cette splendeur. Et c'est absolument bouleversant. D'abord, c'est un film auquel on pense souvent.
Oui.
C'est-à-dire que c'est comme Shining. On se balade dans des hôtels, on dit, mais je suis dans Shining. Bon, ben, régulièrement, on voit des infos, d'écologie, sur les désastres écologiques en train de nous arriver. On se dit soleil vert. Quand on donne à manger aux vaches, de la vache en poudre, on se dit soleil vert, sans spoiler le film.
Ouais.
Et donc, c'est un film qui est dans nos têtes tout le temps. C'est un fantasme absolu de cinéphile, c'est-à-dire mourir devant un beau film.
Oui.
Finalement, c'est ce qu'on souhaite tous. Et c'est aussi le dernier rôle d'Edward J. Robinson.
Oui, qui était malade.
Il était malade à ce
moment-là. Et Charlton Heston le savait.
Voilà.
Et donc, c'est pour ça qu'il a une émotion terrible.
Exactement. C'est-à-dire que...
Il joue sa mort dans son dernier film.
Voilà,
c'est dingue.
Il a atteint d'un cancer quasiment phase terminale. Il a quand même il est quand même venu jouer cette scène. Et voilà. Et Charlton Heston. Donc, il y a quelque chose de, il y a beaucoup d'éléments dans cette scène, aptes à toucher les cinéphiles et citoyens que nous sommes.
Voilà. C'était cette liste étonnante. Nicolas, on rappelle juste les titres. Bon, il y en a plein d'autres, bien sûr. L'argent de poche, Intervista, Le mépris. Taxi Driver, Les Monstres, Orange Mécanique, Thriller et Soleil Vert. Vous restez avec nous, on se retrouve après Fushi Deep End. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. Had a gun, flipped the script, had a big bone to pick. Got the short end of sticks, so we made a fire dead. Let it burn to a crisp, and that's a surefire flip. She's a boss, she's a... I take that as a compliment. I say I'm moving real low, but leave him on a high note. Always leave it loyal, mama raised me thorough. Yeah, better wake up, it's on the way up. You ain't finna play her. Shawty gon' get that paper. Like razor, shawty got wig, got flavor. Part of my d**ks in makeup, pay her. Dip it and hit that layup. Shawty ain't with them games, yeah. Shawty gon' get that paper, pay her. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. Trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. Please don't see to light this bitch up. Life ain't fair, you fight for your cut. Think I spy your eye on my bucks. Great look, not a lion woke up. You eyeing my crying live in a minor event. I finally slipped, built on nobody's amend. Nobody went in, contain what I'm bottling in. It's gonna be done. Get that paper. Shawty don't rip like razor. Shawty got wit, got flavor. Part of my d**ks in makeup. Pay her. Shawty didn't hit that layup. Shawty ain't with them games, yeah. Shawty gon' get that paper. Pay her. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. Laurent, on va parler des choix quand il n'y a plus de salle, donc on va voir du cinéma ailleurs, le lire, le voir. Et notamment, Céline et le cinéma voyage au bout de l'écran de Émile Brami, édition écriture. Beaucoup ont essayé de l'adapter, aucun n'y est parvenu, Laurent, entre Gans, Audiard, Berry, Léon, Duvivier, Godard.
Oui, absolument. Alors, mes frères, comme on dit dans Orange Mécanique, allez en librairie. Elles sont rouvertes. Allez-y. Donc, allez-y, notamment pour acheter cet ouvrage d'Émile Brami. Vous le disiez, Louis-Ferdinand Céline et le cinéma, voyage au bout de l'écran. Alors, il s'ouvre par une citation de Céline qui est formidable. Il a écrit « Je laisse rien au cinéma ». Je lui embarque ses effets, toute sa rastaquerie, mélo, tout son simili sensible. J'ai capturé les motifs, et les motifs, L'E-M-O-T-I-F, pas les motifs, pas plus loin les motifs. Bon, voilà, ça c'était la citation en quelque sorte phare de Céline, qui pensait avoir tout dynamité auparavant, et en quelque sorte empêcher qu'effectivement Duvivier, Gans, Autant Lara, Piala, Téchiné, Louis Malle, Audiard, mais beaucoup ont essayé et s'y sont tous cassés les dents, y compris un certain Sergio Leone, dont il a fini par penser qu'il était une fois en Amérique, était son voyage au bout de la nuit à lui, et qu'il avait quelque part adapté Céline en faisant ce film-là. Donc c'est vraiment un bouquin formidable, parce que c'est plein d'histoires inabouties, l'histoire du cinéma elle est remplie d'histoires inabouties, mais surtout d'un amour effréné pour cette langue, pour cet écrivain phare, immense, et cette incapacité, parce que je pense que l'histoire est peut-être encore à suivre, l'auteur du livre le pense, mais moi j'estime que je pense que personne n'y arrivera jamais. Voilà. Donc il y aura cette énigme Céline pour le cinéma, devant le cinéma en quelque sorte. Et après tout, c'est pas si mal. C'est publié aux éditions Écriture. Je ne sais pas si on l'a dit.
Oui. Voilà. Passe ton bac d'abord. Ça, c'est le film de Maurice Piala chez Gaumont, restauré. Avec ce bonus, un doc après le bac.
Oui, absolument. Non, il faut vraiment rendre hommage à ce film, parce que c'est un film qui est juste fait 10 ans après mai 68, et on s'aperçoit que rien ne s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de jeunesse absolument désorientée, désespérée, sur un fond de chômage. Ça se passe à Lens, donc ce sont tous des fils d'ouvriers, des filles et des fils d'ouvriers qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui sont s'ennuie, comme on disait, la France s'ennuie dans le journal Le Monde en 68. C'est exactement pareil, avec en plus un désespoir social sidérant. Et franchement, Piala capture sur le vif ses peurs, ses angoisses existentielles. Ils sont bien au-delà du simple contexte économique et social. C'est certainement, on peut le considérer maintenant, c'est pas comme ça dans l'esprit de Piala, mais le premier volet d'une trilogie où il y a Loulou ensuite, puis À nos amours après. Donc franchement, ça fait un ensemble incroyable sur cette jeunesse totalement déboussolée. Voilà, ça s'appelle Passe ton bac d'abord. C'est peut-être pas le plus connu, c'est peut-être pas le plus abouti des films de Piala, mais je trouve qu'en ce moment, singulièrement, il faut absolument le revoir. Et il y a une très belle édition, vous le disiez, avec de bonus intéressants, chez Gaumont.
La femme des steppes, le flic et l'œuf. Ça, il est incroyable, ce film de Wang Wanang. Chez Diafana, qui est sorti cet hiver.
Mais oui.
Il est très étonnant parce que je me rappelle cette scène nocturne contre un chameau avec cette femme qui va en fait entourlouper ce jeune flic naïf.
C'est ça. C'est un film qui nous vient de Mongolie. Enfin, c'est un film. C'est une sorte d'ovni cinématographique absolument non identifiable, inracontable. Il est à la fois loufoque et contemplatif. C'est une sorte de songe éveillé et de cauchemar bien réel. Ça distille progressivement une petite musique cinématographique. C'est pas dépréciatif, petite musique absolument singulière, absolument réjouissante, avec des petits miracles, des choses comme ça qui passent, des rencontres improbables, vous y faisiez allusion, et c'est vraiment, on est heureux de découvrir ce genre de film, parce que ça tranche tellement avec le reste, c'est tellement peu ce qu'on voit d'habitude, c'est tellement hors de nous, et si proche aussi, parce que évidemment c'est singulier et universel à la fois, et en bonus de ce DVD Blu-ray aussi chez Diafana, il y a une très très belle masterclass de près de 2 heures du réalisateur, qui a plein de choses à dire, évidemment, qui est une personnalité foisonnante, passionnante. Voilà, ça s'appelle La femme des steppes, le flic et l'œuf. C'est peut-être le plus beau titre de l'histoire du cinéma récent.
Il y a une interview aussi du chef op qui est français, qui est très doué, qui s'appelle Aymeric Pilarski.
Vous aviez raison de le préciser. Vous avez tout à fait raison.
Non, mais c'est marrant de voir un français dans ce genre d'aventure.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Moi, je vais conseiller. Je sais, c'est une série et c'est sur OCS. Ça s'appelle I May Destroy You. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Nicolas. Ça s'appelle. En fait, je pourrais te détruire, de Michaela Cole. Elle est londonienne d'origine ghanéenne. Elle a vécu, écrit, et elle joue et elle réalise. Elle règle ses comptes avec le viol dont elle a été victime en 2016. On fait un scénario comme une catharsis, profond, drôle, extrêmement contemporain, avec une énergie extraordinaire. Elle évoque toutes les nuances du consentement, le parcours de la reconstruction, les réseaux sociaux, les paradoxes du féminisme, la notion de pardon, le tout porté par cette femme indomptable, drôle, qui sait si bien mêler romanesque et modernité. C'est pas du cinéma, mais moi je suis sûr que cette femme va être kidnappée un jour par le cinéma. Ça s'appelle I May Destroy You sur OCS en ce moment. Et pour finir, Laurent,
le cadeau, les cadeaux, ouais, devrais-je dire, à Nicolas Boukrieff, qu'on recommande évidemment chaudement aussi à nos auditeurs. C'est une bonne occasion. Ozou. Merci, Carlotta, formidable éditeur qui fait coup double. D'abord un bouquin. C'est la réédition enfin tant attendue des carnets d'Ozou. 1933, oui, 1963. C'est fait de toutes petites notations très courtes. C'est des haïkus du quotidien, préfacés en l'occurrence par Corneau. Alors je vous lis, si vous le voulez bien, celui du samedi 8 mai 1954. Levé assez tôt ce matin. J'ai commencé par boire du saké avant de manger quelque chose. Je me suis finalement assoupi. Et pris un bain et bu du saké avant de dîner. Après avoir bavardé un peu, je me suis recouché. Une telle journée sera-t-elle mise à mon actif ou à mon passif quand je devrais payer la note ? Fin de citation. Voilà. C'est truffé de ce genre de choses, de ce genre de petites notations. C'est un bonheur d'écriture et de lecture à nul autre pareil.
Bien sûr.
C'est chez Carlotta. Et puis, bonheur supplémentaire, eh bien, Ozou en couleur, l'intégrale, toujours chez Carlotta, en Blu-ray, 6 films, Fleur d'équinoxe, bonjour, Herbe flottante, Fin d'automne, Dernier caprice, Le goût du saké, l'ultime film, et pas n'importe lequel. Plus, en bonus, 4 films en noir et blanc, dont Gosse de Tokyo. Super. Il y a des heures et des heures de bonus avec des documentaires, des analyses, des entretiens. C'est toujours, je le répète, chez Carlotta. C'est peut-être le plus beau cadeau cinéphile qu'on peut se faire, qu'on peut faire en ce moment. Et on vous le fait avec plaisir.
Vous savez ce qui est marqué sur sa tombe ? Non, néant, le signe du néant.
Super.
C'est fou. Hein.
Superbe.
Il faut signaler, Nicolas Boukrieff, que est toujours en librairie, qui ont réouvert 100 grands films pour les petits que vous avez écrits avec Lydia et Nicolas Boukrieff. Un guide pour créer un socle de cinéphilie et chez les 3 à 8 ans, de Max Linder à La Tortue Rouge et chez Grund et Arte Édition. Là, c'est une belle idée de cadeau là pour Noël.
Ah bah, je sais pas, les gens en font comme ils veulent, mais...
si, c'est vraiment le droit fil de ce que vous disiez sur la nécessité de l'éducation aux images.
Oui, exactement. Voilà.
C'est pour ça qu'on l'a fait. Bien après, c'était un livre utile en confinement. Parce que quand on a des enfants, il fallait bien les occuper. Donc,
que leur faire regarder.
Leur montrer King Kong... ou l'argent de poche, justement, que de laisser devant une chaîne pour enfants.
Tiens, il y en a un ou deux qui ressortiraient des titres, là, tout d'un coup.
Bah, dans le coffret Ozou, il y a Bonjour, justement, qui est un film de Ozou qui peut tout à fait plaire aux enfants, parce que le héros, c'est deux petits-enfants dans le Japon des années 50.
C'est vrai.
Voilà.
Donc, et un autre du livre à recommander.
Je sais que Netflix, je leur fais pas dans la publicité, mais ils ont pris tout le catalogue Miyazaki. Et là, évidemment, il y a tous les Miyazaki sur Netflix, qui est formidable pour les enfants, par exemple.
C'est vrai.
Donc, 100 grands films pour les petits. Merci beaucoup, Nicolas Boukrieff.
Merci à vous.
Et belle liste de ces films. Les salles de cinéma à l'intérieur. On vous laisse avec le générique. Voilà. Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs, il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Nicolas Boukrieff, j'y étais.